Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles.
On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi. Elles aiment ça. Elles savent où elles vont.
Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation.
Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo.
Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire.
Maintenant, j'ai 58 ans, j'avais 45 ans quand j'ai commencé, alors...
Comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problèmes dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution ?
Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution.
J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau.
On ne peut pas guérir le viol avec le viol.
On a survécu.
La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 3, survivre à la prostitution.
Je m'appelle Rosalie, j'ai 29 ans. J'ai été... prostituée de mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans.
Moi, c'est Alexine, j'ai 27 ans, j'ai vécu dans la prostitution de mes 19 à 21 ans.
La seule question que je me pose aujourd'hui, c'est comment je vais ? Comment je vais aujourd'hui par rapport à avant ? Toi, comment tu vas par rapport à avant ?
Voilà. Bien et en même temps pas bien, parce que en fait, ça fait genre... 4-5 ans que je suis militante féministe, 4 ans que je parle un visage découvert comme ça. C'est pas facile. Je me dis qu'avec le temps, je devrais avoir plus de facilité à parler. Enfin, surtout par rapport au début où j'arrivais absolument pas à parler devant des journalistes ou quoi. Donc oui, il y a forcément un progrès, mais c'est toujours très compliqué parce que je mets en avant des situations super compliquées, difficiles, les trucs les plus douloureux de ma vie devant des gens que je connais pas. J'ai l'impression de donner mon intimité à tout le monde, un peu comme dans la prostitution, et ça me met à nu et c'est insupportable par moments. Alors que, enfin, je sais que je fais ça pour le bien, pour d'autres survivantes, enfin surtout pour les survivantes, parce que je fais pas ça pour faire carrière, et si je pouvais ne pas être connue pour avoir été prostituée, ce serait bien. Surtout que je suis connue que pour ça, en fait. Donc quand on vient me parler, c'est pour me parler prostitution, et c'est un peu insupportable. J'aimerais être autre chose que la meuf qui a toujours été exploitée. Je sais pas si je vais bien, honnêtement, parce que le féminisme, c'est bien et c'est mal. Ça me fait du bien, j'ai guéri, j'ai trouvé des mots pour parler de ce qui n'allait pas. Le fait est que j'en parle tout le temps, que j'y pense tout le temps, et du coup, ça me fait quand même du mal. Et toi ?
Moi, ça fait donc 3 ans et demi que je suis en thérapie. Ça fait 2 ans que je me souviens de tout ça, parce que j'avais vraiment tout oublié. Je me suis donc construit une vie, j'ai fait mes études, et j'ai un copain qui est toujours le même que celui que j'ai mentionné tout à l'heure. Il y a des choses qui se passent et qui sont bien. J'ai aussi beaucoup déconstruit, du coup, pendant les 3 ans. J'ai un trouble dissociatif de l'identité, donc j'ai retrouvé des parties et des parties et des parties. Je crois que, en dernier compte, on était 118. Et chacune a son histoire, sa manière de faire les choses, ses envies, ses pensées. Donc c'est lourd. Et je comprends ce que tu veux dire par toujours se remettre dedans, parce que la thérapie est régulière, je fais aujourd'hui ce podcast, de toute façon j'y pense tout le temps, et je me souviens d'une fille que j'avais rencontrée qui m'avait dit « mais en fait ta vie c'est de la thérapie, si je le fais pas je vais tellement mal, c'est une catastrophe, j'ai pas d'autre choix que d'être en thérapie en permanence ».
J'aimerais dire, rajouter un truc, c'est que le féminisme, le fait de parler comme ça à visage découvert, que tout le monde me voit et m'entende, j'ai été trop habituée à être négligée par les gens, je suis incapable de demander de l'aide. Le fait que je parle, ça m'empêche, tu vois, de retourner en arrière. Donc moi, je vais de l'avant.
Moi aussi, hein, je vais aussi de l'avant. Pour moi, les personnes qui parlent, c'est celles qui m'ont portée. Quand j'ai commencé à me souvenir de tout ça, quand je me suis regardée dans la glace et je me suis dit « moi, prostituée, comment j'ai pu faire un truc pareil ?» C'est pas possible que ce soit arrivé, c'est n'importe quoi. Je peux pas croire ma tête, mais si, je vous jure que c'est vrai. Mais à l'époque, c'était vraiment utile et important que je lise des gens sur Twitter, les témoignages des mouvements d'unis. Ils me disent « mais en fait, on s'en sort. » Et même si c'est difficile, et même si on a des réminiscences, et même si on se fait déclencher pour un oui, pour un non toute la journée, ben on peut quand même aller de l'avant et pas retomber dedans, parce que c'est quand même assez courant qu'on retombe dedans. C'est tellement dur, tellement une voie toute tracée de violence qui, comme on le décrit depuis le début, se crée dans l'enfance et on va tout droit, tout droit, tout droit. Et de la violence à l'enfance, on va à la violence de l'adulte et on rencontre que des adultes violents et on reste dans ce cercle-là de violence. Après, il y en a plein qui retombent dedans parce qu'ils n'ont pas d'argent aussi.
Ouais, très peu d'options qui s'offrent à nous. Et quand on voit le décalage entre notre vie et celle des autres qui est lambda, le décalage, il est vraiment trop grand et on ne sait pas comment faire pour aller de l'autre côté comme les autres.
J'ai l'impression qu'il faut qu'on construise notre propre chemin.
Toute notre personnalité, notre vécu continue à travers le premier trauma initial qui nous a été infligé quand on était enfant.
Ouais, complètement. Et c'est difficile parce que les autres personnes, ceux qui n'ont pas vécu ce genre de trauma ou qui ne sont pas juste déconstruits par rapport à leur propre vie, parfois sont très critiques, ne comprennent pas ce que ça peut représenter pour une personne, ne comprennent pas ce que ça peut créer dans la tête comme problème, sont à des années-lumière d'imaginer ce que ça fait d'avoir vécu un viol collectif. Quand j'avais commencé à me souvenir de tout ça, je lisais des témoignages sur les viols collectifs et tout ça. Il y a toujours l'opinion publique qui dit « Oh là là, elle a vécu un viol collectif avec, je sais pas, 5-10 personnes, machin et tout. » Je me disais « Mais moi, j'en ai vécu plus d'une trentaine. Mmh. Est-ce que je suis encore en vie, du coup ?» Mmh. Les gens se rendent pas compte, en fait. Et du coup, quand on se retrouve dans le monde du travail, dans le monde normal, entre guillemets, bah, on a des besoins qui sont différents des autres et on a des problèmes qui sont différents des autres. Et c'est difficile de dire bah, « En fait, j'ai un besoin qui est lié à ça. » Comme il y a une idée que la prostitution est un choix, encore une fois, non. Genre, on est laissé à notre propre sort. C'est complètement débile. En fait, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, on guérit pas tout seul, on guérit avec les autres, en rencontrant des gens, en ayant des psys, des aides. Moi, j'ai une ostéo qui est géniale, la danse-thérapie, j'ai fait de la dramathérapie, des groupes de soutien pour la prostitution, des groupes de soutien pour la pédocriminalité et l'inceste. J'ai fait des quantités de trucs et c'est ça qui m'a construit aujourd'hui. Je pourrais pas être là à vous parler comme ça sans avoir tout ça, en fait.
Tu es très engagée dans ta guérison, ça
oui.
se voit.
Oui, mais presque un peu trop parfois.
Ça fait 4-5 ans que je passe mon temps à juste intellectualiser tout mon vécu, ma santé mentale. J'arrête pas de l'analyser, la réanalyser tous les jours, c'est insupportable. De mon réveil jusqu'à ce que je m'endorme, en fait. Depuis genre un an ou deux, je vais danser, je vais à des concerts toute seule. Je me gère toute seule. Et si je bois, je bois très peu parce que je suis seule. Et je rentre chez moi seule. Et en fait, je fais ça pour moi, je vais pour aller danser. Sentir les vibrations des basses et tout. Et moi, ça me fait du bien. Je bouge mon corps. J'ai énormément de traumatismes liés à mon corps. Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte que le somatique, c'est très important aussi. Il faut s'occuper de le faire bouger. Le mouvement, c'est super important. Et ben, j'apprends à me réapproprier mon corps de cette façon. Il y en a d'autres. J'y vais vraiment tout doucement avec moi-même.
Tu sais quoi, j'ai envie d'avoir une sexualité normale et déconstruire beaucoup d'automatismes qu'on m'a fait intégrer quand j'étais trafiquée. C'est vraiment comme une recherche de lumière, quoi, dans un monde un peu noir, que ce soit par la musique, la danse, le dessin, l'écriture, les poèmes. J'ai une copine, elle fait que des poèmes tout le temps. Il y en a qui construisent des groupes, des associations, des groupes de soutien, etc. Et en fait, c'est en rencontrant d'autres qui ont réussi à faire ceci, cela, qu'on se donne aussi le droit et le pouvoir de faire nous-mêmes ce que les autres font, et puis de le faire à notre manière, et puis d'essayer de construire sa vie, en fait. Les gens normaux, mais ceux qui n'ont pas vécu ce genre de violence, n'ont pas à se poser toutes ces questions.
Quand t'as autant de manques, tu sais même pas c'est quoi, en fait, tes besoins. Donc c'est difficile à se construire avec ça, sans limite, sans valeur, sans
amour. Sans cadre.
Sans cadre, ouais. Moi, j'ai été confrontée à la pornographie très jeune, à la consommation de pornographie, de prostitution de mon père très jeune. Je n'ai pas été éduquée à la religion, mais mes deux parents ont été éduqués par la religion catholique. La pureté, l'impureté, le péché, machin, le fait qu'il y a la mère et la prostituée, c'est les deux seules voies possibles en société pour les femmes. Moi, j'avais pas envie d'être mère, je voulais pas faire comme mes parents parce que je les voyais trop malheureux. J'avais l'impression que voir plus de gens, c'était la liberté sexuelle. Mais ça l'était pas, parce que purée, qu'est-ce que ça faisait un mal de chien.
C'est ça, la liberté, moi, je ne veux pas.
Ma première fois, en fait, quand j'y pense avec le recul des années après, c'était horrible. Et en fait, lui-même était pornophile. Il avait 11 ans de plus que moi. J'ai eu ma première fois dans une voiture toute mini. Ça faisait super mal. Pendant un an entier, j'ai jamais connu la douceur d'un lit. Enfin, c'est te dire, c'était à même le sol dehors, dans une prairie. Enfin, je suis restée avec pendant 3 ans, mais en fait, on n'était pas dans la même ville. Donc en fait, il venait chez moi dans ma campagne pour coucher avec moi une fois tous les 2-3 mois, tu vois. Je le dis tout le temps que j'avais l'impression d'être une prostituée avant même d'être prostituée, parce que avec mon premier copain, j'essayais de le faire plaisir, mais comme je l'avais vu dans la pornographie. J'étais vraiment dans l'adaptation à ce que veut l'autre, mais je pensais même pas au fait que j'avais mal. Et je disais même, mais moi j'aime avoir mal. Je suis masochiste. En fait, c'est pas vrai. Et en plus, qu'est-ce que ça dit en général quand une femme dit qu'elle est masochiste, qu'elle aime avoir mal? C'est qu'on lui a fait du mal. C'est pas qu'elle aime avoir mal, mais elle n'a pas d'autre choix que d'essayer de trouver ça normal en disant qu'elle aime ça. Voilà, avec ce podcast, on a démontré que les femmes ou les enfants qui tombent dans la prostitution, c'est vraiment pas un hasard, c'est un continuum de violence. Et ce qu'on voit aussi dans le mouvement féministe, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à la protection de l'enfance, les violences conjugales, comment ça affecte les enfants, mais aussi l'inceste avec MeToo Inceste, auquel j'ai participé aussi. Et en fait, si on s'intéresse à ces enfants, c'est bien de s'intéresser à l'après. Les enfants victimes d'inceste, c'est souvent les prostituées.
Ouais, ils vont pas bien. C'est pas des adultes qui vont bien.
Quasiment pas une qui n'a pas vécu de violence.
Non, moi non plus.
Dans leur enfance, et on sait toutes que celui qui nous agresse, enfant, en général, c'est quelqu'un qu'on connaît, et en général, c'est la famille. Donc, il est important d'écouter les survivantes de la prostitution parce que c'est la continuité de tout le projet féministe de protéger les femmes, protéger les enfants, faire de la prévention et changer les mentalités pour qu'on ait une meilleure société à la fin.
Il y a des appels d'air, si on peut découvrir autre chose de la vie, c'est ce qu'il faut faire en fait. Souvent cet appel est vrai et juste, beaucoup plus juste que de rester dans un monde de noirceur et d'horreur. Il y a une voie de lumière qui existe en chacun de nous pour moi et qui quand elle est explorée est beaucoup plus libératrice et beaucoup plus heureuse.
Nous, Alexine, Anne, Lexi, Rosalie, Rosane, Valérie, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir, nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge.
La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution.
L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.